L'Afrique dans tous ses états. Une émission réalisée et produite par Radio FM+.
Pour cette émission Afrique dans tous ses états, nous en sommes au deuxième épisode, Marie-Claude Siakezak, avec notre invité de la semaine dernière.
Voilà, nous retrouvons avec plaisir Nicolas Augustin qui nous a régalé de son parcours initiatique, que ce soit le départ d'une famille béninoise au Mali, et puis ensuite retour au Bénin, dans la cour familiale, la grande cour familiale comme les cours familiales existent. Voilà, et puis qui nous a un petit peu régalé avec tous ses récits, il nous a enchanté un petit peu.
Mais nous sommes arrêtés à l'adolescence, aux premières amours.
Voilà.
Qui sont restés d'ailleurs, sont restés aujourd'hui encore.
Oui, je suis toujours avec la même.
Donc Anne-Marie, la petite terroise
de son petit nom. Voilà, et donc après ma terminale, j'ai dû faire un choix par rapport à mes études supérieures. Donc j'ai opté pour un BTS en électrotechnique. Je suis parti donc à Carcassonne pendant 2 ans. Et là,
Anne-Marie est restée à Montpellier.
Anne-Marie est restée à Montpellier à la fac de droit. Mmh. À la fac de droit, et je rentrais tous les 15 jours. Hein, puisqu'elle avait une chambre à la voie domicienne, à la cité universitaire de la voie d'eau. Et pendant ces 2 années à Carcassonne, ça a été super, super sympa, parce que les week-ends, j'avais loué un studio. Mais pendant les vacances scolaires, parce que j'étais au lycée technique Jules Fil à Carcassonne, et pendant les vacances scolaires, j'étais accueilli dans une famille à Molleguin. Molleguin, c'est un village juste limitrophe de Carcassonne. Et là, par rapport à Montpellier, les codes n'étaient plus les mêmes.
C'est-à-dire?
Et j'ai gardé cette expression « macani, macarelle ». Et à chaque repas, Nicole Jean, hein, qui est ce père de famille, le papa de Daniel, Nicole, qui était un copain de BTS, me posait des questions sur l'Afrique. Et ce qui revenait, il me dit, mais vraiment, toi, tu es spécial, hein, tu parles français et tout. Je le fais encore heureux.
Il
ne peut pas que français, mais on sentait le décalage, la personne qui n'était pas au fait, donc ça menait à des parties de rigolade. Et c'était un monsieur donc, qui était éboueur, mais en dehors de son travail, ben, il entretenait la vigne familiale, il avait un élevage de lapins. Et là, je l'ai vu à maintes reprises tuer des lapins. J'ai été écœuré, mais bon, après une fois que c'est cuit, voilà, je me régalais, le lapin au vin. Et puis il y avait Josette, sa femme, qui faisait des artichauts crus en salade. Oh là là.
Oui.
Avec des petits lardons et
ça c'est bon.
Ah, très très bon,
c'est,
très
c'est
très
local,
bon.
Ça, c'est...
Voilà, donc j'ai passé deux années à Carcassonne, de merveilleuses années, et c'est là où aussi j'ai pris ma première biture à la Carthagène.
Ouh là là, la Carthagène, c'est mortel.
Et la Carthagène, et vraiment. Le jour le premier de l'an à Carcassonne, donc on partage au dessert le pain d'anis. Mmh. Et pour accompagner ça, ben il y avait la Carthagène. Et avec mes potes, ils m'ont fait goûter la Carthagène. J'ai dit bon, oh, macani, que c'est bon.
En plus, c'est un peu sucré, donc ça passe bien.
C'est sucré. Et je me rendais pas compte. Il me dit mais si tu aimes, mais resserre-toi. Et moi, gourmand, ben, j'allais, je me resservais. Et à un moment donné, j'ai senti que dans la tête.
Ça tournait.
Voilà cette période de Carcassonne, 2 ans passés là-bas, ça, j'en garde un très très bon souvenir. Et ses amis sont restés des amis, on se voit souvent. Et il y a le père Jean qui nous a quittés il y a 3 ans, voilà. Et ensuite, donc après, je suis revenu sur Montpellier, j'ai donc trouver du travail dans une structure qui s'appelle Semi Engineering, dans le milieu du qui travaille qui fait, et cette structure fabriquait des équipements pour l'industrie de la microélectronique, donc les microprocesseurs, les composants électroniques. Et j'ai été choisi pour installer ces équipements avec 2 autres copains en Russie. Donc je suis parti 3 ans pour la Russie. Non mais c'est des campagnes de deux à trois mois. Et j'ai passé 3 ans donc à Moscou, Minsk et Saint-Pétersbourg. Et là, à nouveau, l'émerveillement parce que la Russie, l'hiver par moins 40. c'était bien. Parce qu'on avait, comme on amenait une technologie, on était privilégié. Et donc, on a eu la chance d'aller au Bolchoï.
Ah ouf. Ouf.
Sachant que pour un Russe, avant d'aller au Bolchoï, il faut déjà qu'il soit privilégié, qu'il fasse partie du prolétariat. Hein. Et il y a 15 ans d'attente. 15 ans d'attente. Pour une ligne téléphonique, il y avait 8 ans. Et pour un logement, c'était 10 ans. C'était dans les années 86.
Ouf.
86. Et là, vraiment, j'ai découvert un autre peuple très, très accueillant. Très accueillant. Et nous, comme on travaillait dans la microélectronique, on était suivis, donc voilà, hein, c'était... Voilà. Et en dépit de ce, on était invités chez l'habitant. Mais il fallait attendre la tombée de la nuit pour aller chez l'habitant, autrement, c'est l'habitant qui risquait de se retrouver en prison,
oui,
parce que...
C'était interdit.
Et la Russie, c'est bien la Russie. Le Bolchoï m'a permis d'adorer, de connaître, de savoir ce que c'est que l'opéra. Il y avait le lac des cygnes. J'avais aucune éducation en la matière, mais là j'ai adoré. J'ai vraiment adoré, et ça a été la découverte d'autres codes de fonctionnement, d'autres rapports humains, et ça m'a renvoyé un peu à la période où il y avait le dictateur Mathieu Kérékou au Bénin, où Mathieu Kérékou avait institué les séances de salubrité. Donc les séances de salubrité en Russie, tout le monde sort avec une pique qui fait 1 mètre et ramasse les feuilles. Et au Bénin, ça se passait comme ça. Kérékou faisait sortir tous les vieillards, tout le monde sortait pour
débroussailler. Les feuilles des arbres ou les feuilles de papier?
Non, les feuilles des arbres.
Ah, des arbres, oui.
En Russie, ça, je l'ai vu.
Ouais.
Vraiment, avec cette pique. Et ça m'a... Il y a eu un effet miroir. J'ai dit, tiens, Kérékou, puisqu'il prônait le marxisme, léninisme, et là, je le vivais aussi, mais directement en Russie.
À la source.
Mais bon, voilà. Et ensuite, on était quand même privilégié, on était à l'hôtel. Et là-bas, quand on va au restaurant, eh bien, on choisit pas. À l'époque, on ne choisissait pas sa table. La table à laquelle on va, on peut vous mettre avec. On vous met avec. Voilà.
C'était une table collective.
Et Non, c'était des tables, mais on vous dit, vous mettez là, vous n'êtes pas, vous choisissez pas. Donc, on tombait avec le commun des mortels. Et souvent, au restaurant, à l'époque, il y avait aussi des restrictions pour la vodka. Pas de vodka avant 23 heures au restaurant. Donc, on était surpris de voir arriver beaucoup de gens, souvent les hommes, avec un acta tchékez. On se dit, mais ici, c'est beaucoup d'agents commerciaux. Qu'est-ce qu'ils font?
Des cadres qui travaillent très tard, ben même au restaurant.
Ben oui, oui. Des gens qui travaillent à Wall Street, à l'équivalent de Wall Street là-bas. Mais non. Et là, à notre table, un jour, il y avait deux pilotes qui ont fini leur journée. Et ils nous demandaient d'où vous venez. On dit, Paris. Comme ça, il est Paris. Ils ouvraient la tâche qu'ils que j'avais dans la bouteille de vodka. Et voilà. Et donc, on dégustait le... Comme ça, ils nous offraient la vodka. Et plus on parlait de Paris, parce qu'ils adorent le cognac, là-bas, avoir boire du cognac. Oh là là, ça a été, voilà, cette période où j'ai découvert l'esturgeon. Enfin. Et... Autre chose, c'est que pour communiquer avec Anne-Marie, qui est restée en France, et on avait déjà eu Philippe, notre premier fils, j'ai oublié.
L'aîné,
bon,
oui.
Voilà, l'aîné. Eh bien, il fallait commander le téléphone 2 jours avant.
Ouh là là, ouais.
Communication 2 jours avant. Mm-hmm. Donc, voilà, la période Russie, c'était extraordinaire, j'en garde de bons souvenirs. Ensuite, il y a eu la période Allemagne de l'Est.
Ah. Ouais. C'était plus la vodka, là? C'était quoi?
Non, là, c'était plus soft. C'était à Leipzig. Voilà, j'ai travaillé c'est à Leipzig. Chiant, ouais. Et puis, un an aux États-Unis pendant que j'étais en Russie. Mm-hmm. Et là, j'arrive à Washington. Et là, Washington me dit, passez, on était 3, passez à côté et vous attendez. Ils nous ont laissé pendant 1 heure. Et en fait, c'est là où on découvre l'envers du décor. Ils savaient qu'on travaillait en Russie.
Et oui, c'est ça, ça c'est clair.
Voilà, donc on a eu à passer des interrogatoires.
Ah, oui, est-ce que ce sont des espions? Et oui.
Et oui. Donc là, motus. On disait rien, on a voilà, et puis au bout d'un moment, bon, ils nous ont laissé partir, mais après on était suivis.
Ah oui.
Voilà. Donc de retour de cette campagne de Russie, États-Unis, dont je garde un bon souvenir. Ensuite, voilà, je décide de quitter cette société. Et j'ai repris mes études, j'ai passé un DUT en informatique à l'IUT de Montpellier. Et ensuite, je me suis mis à mon compte, j'ai créé une structure pour proposer mes prestations en câblage de réseaux informatiques, cuivre et fibre optique. Ce que j'exerce encore jusqu'à présent. Mais... pour garder un lien avec le Bénin, je rentrais tous les ans pendant 15 jours ou 3 semaines, ça dépend. Et j'ai amené aussi le Bénin, j'ai amené ma famille aussi découvrir le Bénin. Donc voilà, les enfants, Anne-Marie, enfin, voilà. Et la transition, c'est laquelle? C'est il y a 12 ans. Il y a maintenant 12 ans, j'ai décidé donc d'œuvrer pour l'Afrique. Ce qui m'a donc amené à changer de braquet et à faire un cheminement personnel. Donc j'ai intégré une structure qui s'appelle l'EME, l'École méditerranéenne du massage et de l'écoute, où j'ai passé 3 ans dans cette école, tout en ayant en étant artisan, hein, ce que je suis encore aujourd'hui. Et de là, j'ai créé avec des amis une association qui s'appelle Tennis Bénin France, qui a permis donc on se rencontre, Marie-Claude.
C'est là où on s'est rencontrés, oui.
Vous faites les deux du tennis?
Non, c'est pas ça, c'est qu'on s'est rencontrés pour... Ah, vas-y.
Oui, donc on s'est rencontrés parce que moi, avec des amis, j'habite à Téhéran, avec des amis du club de tennis de Téhéran, on a créé l'association Tennis Bénin France pour aider au développement du tennis au Bénin.
C'est ça.
Au départ, donc, cette idée de développer du tennis au Bénin ne passait pas bien. Donc, lors d'un voyage au Bénin, je vais au centre artisanal de Cotonou, chez une amie qui avait une galerie, et là je trouve une œuvre par terre, qui me parle, qui fait écho. Puis je prends cette œuvre, je dis, mais c'est magnifique ça. J'ai dit, tu la vends? Il me dit, non, tu la veux? Allez, je te donne cette œuvre. Je dis, ah bon? J'ai dit, mais pourquoi? Il me dit, je vends cet artiste-là, il vaut rien, je ne vends pas. J'ai dit, ah bon? Bon, j'ai dit, bon, d'accord, merci beaucoup. Et demain, je m'en vais pour le Togo. Il me dit, ben, si tu vas pour le Togo, il habite à Lomé. Ah. J'ai dit, donne-moi son téléphone. Et c'est ainsi que j'ai rencontré Ayaovi Sesofia Dabla, qui est un artiste, un plasticien. Et là, j'ai été vraiment surpris de l'expressivité de toutes ces œuvres. Mmh. Marie-Claude, tu as eu l'occasion de voir.
Chez moi, voilà. Dans mon cabinet, j'en ai une dans mon bureau. Mmh.
Voilà, donc avec Dabla, on s'est entendu. J'ai dit, écoute, moi, je m'engage à faire ta promotion en France, via donc l'association. Mmh. Et c'est ainsi que je me suis reconnecté donc avec ce qui fait sens pour moi aujourd'hui, à savoir la représentation des œuvres africaines, plus spécifiquement de Dabla. Et à travers les expositions de ses œuvres, on a pu faire passer le message du tennis.
Du tennis, oui.
C'est vrai, on ne faut jamais affronter les choses de face quand on n'y arrive pas. On contourne.
Il faut contourner, surtout s'il y a un mur en face.
Ça fait mal, les murs.
Et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés avec Nicolas, puisqu'on faisait à ce moment-là, on faisait une fête avec mon association, qui est sur le Burkina, et il m'a demandé s'il pouvait exposer des toiles. Ben, je dis bien sûr, au contraire, un Africain en plus. Puis on n'a pas regretté, parce que c'est magnifique. Et c'est de là qu'on a commencé à être en lien, et voilà, et avoir l'exposition. Puis il a connu du monde, etc., etc.
Tout à fait. Et Dabla est venu exposer, donc on a pu vendre certaines œuvres. Et Dabla est venu en l'an 2000 et a exposé à la galerie Saint-Ravi. Mm-hmm. La mairie de Montpellier nous a gracieusement laissé à disposition la mairie et ça a eu un grand succès.
Vous avez eu des nouvelles de la première, de la personne qui vous a donné l'œuvre?
Ben oui,
elle est
à Paris, elle est toujours un peu dans l'artisanat. Mais voilà, Dabla, ça passait pas.
C'est vrai, ce sont des coups de cœur. Hein.
Ah oui, c'est des coups de cœur. Et moi, ça m'a permis de me reconnecter à la façon, à sa lisibilité, à la façon qu'il avait spécifique de lire l'Afrique et de relater le quotidien du commun des mortels. Et c'est ça qui transparaît à travers cette toile.
Une originalité en plus. Vraiment, à la fois, il y avait... Hein, c'est enraciné dans l'Afrique et en même temps, il y a son expression à lui. Quoi,
tout à fait.
Magnifique.
Ouais. Et il peignait beaucoup. Bon, il est décédé entre-temps. Et là, c'est laissé une petite victoire. On en parlera peut-être tout à l'heure. Oui. Et donc, dans ces toiles, il peignait avec le couteau et il peignait 10 toiles à la fois. Mm. Il faut le voir. Il faut le voir pour le croire. Dabla, c'était ça. L'instinct. Et vraiment. Et Dabla, bon, ça, peut-être qu'il y aura une autre émission sur l'art, parce que Dabla, il y a beaucoup à dire. Il est resté, quand il est venu en France, il est resté à Téhéran, donc chez moi. Et il peignait après le premier cycle de sommeil. Et chaque fois, c'était une heure et quart. Donc, on lui mettait un projecteur. Et monsieur, voilà. Il enduisait, il préparait ses toiles lui-même, il achetait du jean qu'il enduisait avec de l'acrylique blanc et de la colle. Il faisait le fond de toile et puis après, il peignait. Mais j'étais vraiment très, très surpris. Et Dabla, quand il est venu, une chose qu'il a faite, et là, on se dit, c'est l'Africain. Au bout de 3 jours, il m'a dit, Nicolas, je sors et je reviens. Eh bien, il est parti de terrain à pied jusqu'à Montpellier. Il est revenu. J'ai dit, mais qu'est-ce qui t'arrive? Il me dit...
Il fallait que je marche.
Si je ne sais pas où je vais, je sais d'où je viens. Il prenait ses marques. Et là, c'est une leçon de vie, quoi. Mmh. C'est, mmh. Voilà. Et ensuite, de fil en aiguille, donc, l'association a eu à faire plusieurs ventes, plusieurs expositions, et ensuite a adopté à nouveau un élève de Dabla, c'est Xavier City. Mmh. Voilà. Et puis, donc, Tennis Bénin France continue toujours, existe toujours. On collecte du matériel dans différents clubs de tennis. Que j'acheminais donc au Bénin grâce au service humanitaire de Air France qui m'accordait 60 kilos. Mm. Voilà. Donc on avait un club référent, Club Raquette CRI, Club Raquette International à Porto Novo, mm. avec qui on est toujours en relation. Et ce qui nous a beaucoup rapprochés aussi avec Marie-Claude, c'est cette passion qu'elle a pour l'Afrique et pour plus spécifiquement le Burkina au niveau des femmes, surtout celles atteintes, hélas,
du VIH
à leur insu, et voilà, avec tout ce que ça comporte. Et je tiens ici à la remercier pour toutes ces années d'investissement, et je sais de quoi je parle, parce que le VIH, mm. eh oui, il faut aider ces gens, il faut informer, et c'est ce qu'elle n'arrête pas de faire. Elle accueille aussi du monde d'Afrique chez elle, voilà.
Il faudrait l'inviter un jour à une émission, en fait.
Oui, merci
mais
Marie-Claude pour ça.
L'Afrique me nourrit vraiment beaucoup.
Voilà. J'entends.
Et justement, par rapport à Dabla, moi je tenais à dire quand même que Nicolas continue à régulièrement essayer de vendre quelques toiles et tout, pour envoyer de l'argent pour que cette petite orpheline... Hein,
oui, Victoire. Oui, Victoire.
Puisse continuer, puisse avoir des études, etc. etc. Mmh.
Ouais, voilà,
pas
donc,
abandonner, quoi.
Mmh. Mmh. Il y a un site internet qui est en train d'être fini, là. Mmh. Voilà. Mmh. Sur lequel on parle de Dabla, de Xavier City, mmh. et d'autres artistes, mmh. et qui va être mis en ligne dans une quinzaine de jours.
Pour Noël.
Oui. Sachant que ici, actuellement, ça, c'est une confidence. Maintenant que je lis, ce ne sera plus une confidence.
C'est un scoop, hein?
Oui, c'est un scoop. J'ai près de 380 toiles de Dabla.
Dabla, oui, c'est ça.
Oui, Dabla paye énormément.
Tout à fait.
Et j'ai eu à me former, et je fais de tout, de A à Z. C'est-à-dire que je mets les toiles sur... Je fais les cadres, je mets les toiles.
C'est du boulot, ça aussi.
Voilà. Parce que...
Et vous les vendez par internet, vous les vendez comment?
Eh bien, on va le vendre par internet.
D'accord.
Sinon, jusqu'à présent, j'ai fait énormément d'expositions.
Des expositions,
via au compte-gouttes, en fait.
Tout à fait. Via les fêtes des associations africaines, voilà, qui me contactent, ou certaines médiathèques, Villeneuve-les Montpellier, c'est ça, Villeneuve-les Montpellier, la médiathèque de Terran, à Prades-le-Lez. Il y a eu plus d'une trentaine d'expositions de faits. Voilà.
Bien, Nicolas, Augustin, votre temps s'est écoulé.
Déjà?
Ça passe à toute allure, et pour nous aussi.
Là.
Mais alors, bon, on vous reviendrez.
Oui.
Maintenant qu'on vous connaît bien, on vous reviendrait sur des thématiques que vous venez de nous proposer.
Oui.
Pourquoi pas l'art africain,
oui,
avec
Dabla. Mmh.
Et puis, on a évoqué aussi les femmes.
Mmh. La condition des femmes.
La condition des femmes. Donc, on va concocter cela.
Oui.
Marie-Claude, je vous fais confiance. Nous allons trouver... Voilà, quelques personnes pour évoquer ces deux sujets-là dans certains pays d'Afrique, finalement. Mmh.
Mmh. Merci, Guylaine, de m'accueillir. Voilà. Merci à toi, Marie-Claude.
Mais on va se revoir, Nicolas.
Je suis très ému, très ému. Hein.
C'est ça.
Et merci à toute l'équipe qui est dans l'ombre, qui m'a permis d'être à la lumière aujourd'hui. Hein.
On va se revoir, Nicolas, à la radio, en tout cas. Aussi.
Merci
on se quitte sur une musique que vous nous avez apportée, Angélique
Kidjo.
Oui. Célia.
Célia, c'est une des plus connues. Mmh. Et puis, bon, vous pouvez toujours réécouter cette superbe émission que Nicolas vient de nous proposer sur le podcast de 91.fm plus bref
radio FM plus,
vous allez vous débrouiller, vous allez y arriver.
Au revoir. Au revoir,
merci à vous.
Esta moderna, te juro mi negrito, que está con un tormento. Tú sabes, yo quiero un muro, sabe de todo. Esa negrita no come cuento. ¡Esa de azúcar!
¡Cúcala, cúcala, cúcala!
¡Ella sabe bailar!
¡Cúcala, cúcala, cúcala!
¡Cúcala, que cúcala, que cúcala para gozar!
¡Cúcala, cúcala, cúcala!
Yo te...